nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, comment fonctionne votre four à micro-ondes, l'écran à cristaux liquides de votre réveil ou encore votre GPS? Voici quelques exemples de questions auxquelles Cédric Rey et Jean-Claude Poisat apportent des réponses dans leur livre « La physique par les objets quotidiens » publié aux éditions Belin en novembre 2007. Un ouvrage de vulgarisation scientifique qui vient de recevoir le prix Robert Val 2009 catégorie grand public. Cédric Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences à l'université Claude Bernard à Lyon. Vous avez créé un cours sur la physique des objets quotidiens de niveau licence à l'origine de ce livre. Alors, vous passez 16 objets à la loupe. Sont-ils les objets pour lesquels les étudiants vous posaient le plus de questions?
Alors, pas tout à fait. En fait, c'est le choix des objets, c'est fait en regardant la physique qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, on voulait, dans l'esprit du livre, essayer de couvrir un champ physique, c'est-à-dire pratiquement le plus de notions physiques possibles. Et donc, en fait, le choix des objets s'est porté sur quelle physique il y avait sous-jacente pour pouvoir couvrir le plus de domaines possibles. Par exemple, j'avais beaucoup de questions sur un autre sujet que je traite en cours, qui est les antivols, parce que après j'avais des commentaires un peu rigolos là-dessus. Ils me disaient, mais... C'est très bien votre cours, comme ça j'ai pu augmenter ma collection de DVD, donc ça n'était pas très positif. Mais par contre, on n'a pas pris cet objet-là parce qu'il y avait déjà un objet qui traitait de tout ce qui était électromagnétisme, etc. Et c'était moins quotidien peut-être que la plaque électrique, donc on a pris plutôt la plaque électrique pour gérer tout ce qui était côté induction, donc ces notions physiques qui se retrouvent partout, mais qui peuvent paraître un peu difficiles.
Vous avez construit votre livre à la manière d'un manuel, comme pour les lycéens, par exemple. Est-ce que c'était une volonté de vous ou plutôt de votre éditeur?
Pas du tout. En fait, c'était une volonté qu'on avait au départ. Donc, dans la maquette qu'on a envoyée à l'éditeur, c'était de vraiment d'avoir des encadrés qui permettaient plusieurs niveaux de lecture du livre, c'est-à-dire un encadré avec des rappels de physique que les gens plus spécialistes pouvaient sauter, un encadré analogie pour effectivement que les gens puissent bien comprendre les notions les plus compliquées, avec des analogies pas toujours très très exactes, mais qui permettent vraiment de comprendre avec les mains, je dirais. Et puis, évidemment, à la fin, je tenais à une espèce de foire aux questions pour ouvrir le manuel, soit sur des sujets d'actualité, soit sur des questions très très pratiques du style... dans la plaque électrique, savoir comment marche la fonction booster ou alors est-ce qu'il faut dégivrer le frigo ou des choses vraiment très très pratiques.
Alors vous avez à l'instant donné quelques exemples, le réfrigérateur, les plaques électriques, il y a bien sûr le réacteur nucléaire, on en a parlé en préparant cette émission, le système GPS, et puis il y a aussi le micro-ondes. Alors je vous propose de parler un peu plus du micro-ondes pour voir un peu comment est construit votre livre et comment sont construits chaque chapitre. Donc quand on s'intéresse au micro-ondes, il y a une partie introductive qui replace un peu les choses dans leur contexte. Alors le micro-ondes fait son apparition, en tout cas l'invention, la découverte du micro-ondes fait son apparition en 1945.
Oui, en fait, c'était presque un accident. C'est des gens qui travaillaient à l'époque, donc en 1945, juste après la guerre ou pendant la guerre. C'est des gens qui travaillaient sur les radars, donc avec des ondes micro-ondes. Et un des ingénieurs qui travaillait sur les antennes radars a vu sa barre de chocolat qui mettait dans sa poche, fondre à cause des ondes micro-ondes. Et donc, il s'est rendu compte qu'effectivement, les micro-ondes avaient un effet aussi sur les molécules pour les faire fondre, c'est-à-dire qu'ils produisaient de la chaleur. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont créé le premier four micro-ondes.
2 ans après.
Voilà, ça c'est allé très rapidement, oui.
Mais j'espère qu'il a déposé son...
Alors, c'est pas lui brevet. Qui a déposé le brevet, en fait. Dans l'histoire, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui a déposé le brevet et qui a vraiment... eu toutes les royalties, mais des fois c'est difficile d'extirper toute l'histoire sur le dépôt des brevets et qui touche vraiment les royalties, etc.
Ça c'est la petite partie anecdotique, historique.
Oui, exactement.
Et bien sûr après vous en venez au concret, à savoir comment ça fonctionne. Vous prenez l'exemple de la molécule d'eau.
Effectivement, on est obligé de partir avec la molécule d'eau qui est vraiment la base du fonctionnement du micro-ondes, puisque on considère dans le livre que le lecteur n'a pas forcément toutes les notions physiques a priori, et donc on va essayer de lui redonner ces notions physiques au fur et à mesure. Et Première chose, c'est d'abord définir la molécule d'eau, comment est constituée l'eau, le fait qu'il y ait des petites molécules qui en fait ont des dipôles, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un champ électrique permanent à cause de la répartition des charges dans la molécule. Et ça, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout intuitif. On explique aussi ce que c'est que la notion de température, parce que la notion de température, on pense savoir ce que c'est a priori, mais en fait, les physiciens définissent la température de manière un peu plus, sérieuse, ou de, au moins de manière très...
Mathématique.
Enfin, oui. De manière très formelle. Et c'est vrai que la définition de la température pour les physiciens n'est pas forcément la notion qu'on en aura intuitivement. Et donc forcément, on reprend ces aspects-là avant d'arriver au fonctionnement du four qui utilise eh bien, la température, c'est qu'on veut faire chauffer, et puis les molécules d'eau, parce qu'en fait, le four à micro-ondes va donc permettre de faire tourner ces petites molécules d'eau très vite. En fait, c'est le principe du four, enfin, sans vouloir révéler toute l'histoire avant. Mais...
Vous parlez bien sûr du principe du micro-ondes et comment on chauffe. Vous précisez que la fréquence des ondes utilisées dans un four à micro-ondes est de 2,45 GHz. Ça représente combien ça, 2,45 GHz ?
Alors, 2,45 GHz, ça veut dire que le Hertz... 1 Hz, c'est une oscillation par seconde, et donc 2,45 GHz. Giga, c'est un préfixe pour les multiples, et donc ça, c'est des mégas, c'est donc un million, et donc giga, c'est un milliard. Donc c'est 2,45 milliards de fois par seconde que les molécules d'eau vont changer de sens. Et donc c'est ça qui va vraiment... Alors ça, c'est le champ électrique qui change de sens 2,45 milliards de fois par seconde, et comme les molécules d'eau, on ne l'a pas dit encore, mais elles vont suivre ce champ électrique, eh bien, elles vont aussi changer de sens et bouger à 2,45 milliards de fois par seconde.
Et ce qui va donc produire un échauffement.
Oui, en fait, c'est pour ça qu'on introduit la notion de température au départ. La température, c'est le mouvement. Et donc, ces molécules, elles vont tourner sur elles-mêmes, elles vont aussi s'entrechoquer, elles vont donc bouger, et plus elles bougent vite, plus elles chauffent. En fait, la température, c'est une mesure de cet échauffement, c'est une mesure de cette agitation.
Là, vous venez nous parler des liquides. Quand on met un bol, par exemple un bol de soupe, dans un four micro-ondes, il y a aussi le support. Il y a bien sûr la soupe qui va donc supporter ces échanges, mais il y a également le bol. Est-ce que ce bol aussi va avoir un échauffement ?
Exactement. Le bol va s'échauffer, mais pas à cause des molécules d'eau. Le bol s'échauffe à cause du liquide qui est chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les molécules d'eau, elles ne sont pas présentes dans le bol. Il n'y a pas d'eau dans le bol. En fait, le bol, c'est de la céramique. Il a été cuit à très très haute température, donc toute l'eau s'est évaporée. Et heureusement, parce que s'il y avait de l'eau emprisonnée, eh bien, l'eau va se vaporiser et donc le bol exploserait. Mais le liquide contenu, lui, contient des molécules d'eau. La soupe, par exemple, c'est principalement de l'eau. Et donc, elle va chauffer cette eau et donc elle va ensuite chauffer le bol. Mais le bol en lui-même ne chauffe pas. Il va chauffer indirectement. Et c'est pour ça que normalement, quand on sort le bol de soupe du micro-ondes, la soupe peut être chaude, mais pas le bol. Alors ce qui se passe, c'est que des fois, on a l'impression que la soupe est chaude parce que le haut de la soupe, comme les ondes micro-ondes ne parcourent que 2 cm, le haut de la soupe va être très chaud. Et si on n'entend pas suffisamment pour bien mélanger, pour qu'il y ait bien des mouvements convectifs et que donc la soupe entière soit chaude, eh bien, on va chauffer les bords aussi un petit peu parce que la soupe sera très chaude sur le haut, mais la soupe du bas est froide. Et donc, quand on mélange, la soupe est tiède et on a l'impression que le micro-ondes chauffe moins que la casserole, puisque la casserole, en fait, va chauffer par le bas et donc la soupe du haut va tout de suite être chaude par des mouvements. Quand on a de la soupe chaude en bas et de la soupe froide en haut, ça se mélange beaucoup plus facilement qu'avec un micro-ondes.
On se rend compte que la cuisine, bien sûr, c'est très compliqué.
Oui.
Le four à micro-ondes, à l'intérieur, il y a une plaque métallique avec des petits trous qui fait que l'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre four. Pourtant, on nous met toujours en garde de ne pas mettre, nous, de métal dans le four. Alors, c'est un peu contradictoire.
Il faut distinguer le fait de mettre du métal dans le four. Quel type de métal, sous quelle forme, etc. Il y a des fours, par exemple... À la maison, j'ai un four, je peux mettre un plat métallique. Mais c'est un plat qui est prévu où, en fait, les ondes vont se réfléchir sur le métal, mais toutes les parois à l'intérieur sont en métal. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir du métal comme une fourchette qui a des pointes. Et là, ça va être un problème. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un effet qu'on appelle en physique l'effet de pointe. et où là, on va produire un champ électrique très très important qui va pouvoir ioniser l'air et donc faire un éclair entre la pointe de la fourchette et puis le four à micro-ondes. On a aussi le problème des assiettes qui sont dorées à leur fin. Ces assiettes, il y a une très très fine couche d'or. Et là, si la couche de métal est très très fine, eh bien le métal va s'échauffer par un effet de peau, peu importe l'effet physique, mais ce métal va s'échauffer. Et donc ensuite, le métal en fusion va faire des petites étincelles qui va endommager éventuellement le four. Donc ça ne serait pas gênant d'avoir quelque chose, un plat, typiquement un plat très très lisse, sans aspérité. On pourrait le mettre, même s'il était en métal, au four. Évidemment, les constructeurs, ils préfèrent qu'on mette leur plat qui a été vraiment vérifié par leurs ingénieurs plutôt que n'importe quel plat où effectivement on pourrait risquer d'endommager le four avec des arcs électriques, enfin avec des éclairs.
Il y a parmi les questions, des foires aux questions, puisque à la fin de chaque chapitre, il y a deux pages consacrées aux questions que l'on se pose. Ça fait partie des questions que je viens de vous poser. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que vous donnez sur les glaçons. Peut-on faire fondre un glaçon au four micro-ondes ? Je pensais que la réponse était évidente et finalement, pas tant que ça.
Pas tant que ça parce que, en fait, le four à micro-ondes, quand il est en mode décongélation, eh bien effectivement, il passe la plupart de son temps à ne rien faire. C'est assez paradoxal, mais il attend la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que la glace, eh bien les cristaux de glace, les molécules d'eau dans les cristaux de glace sont à des positions figées. Et donc, elles ne peuvent pas tellement tourner les unes par rapport aux autres. Elles ne peuvent pas avoir ce mouvement de rotation qui va provoquer l'échauffement dans un liquide normal. Et donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait de l'eau qui se crée. Cette eau va ensuite chauffer à cause des micro-ondes, et c'est cette eau chaude qui va faire fondre la glace petit à petit. Et donc la plupart du temps, on attend un petit peu que la glace fonde, on chauffe cette eau très fort, elle fait fondre un petit peu plus de glace, on attend, donc toute la chaleur se diffuse bien à travers tout l'aliment, on recommence, on a plus d'eau, donc on chauffe un peu plus l'ensemble de l'aliment, etc. Mais la glace, réellement, on la chauffe très très peu. Et donc, c'est vrai que je propose l'expérience de mettre un peu d'eau dans un glaçon et la même quantité d'eau dans un petit bac, etc. Et on se rend compte que le glaçon ne sera pas fondu alors que l'eau sera bouillante, quoi.
Donc voici un exemple d'un sujet que vous traitez parmi les 16 objets qui figurent au sommaire de votre livre. Je ne vais pas les citer, mais on y retrouve le réfrigérateur après le micro-ondes, les plaques électriques, l'échographie médicale, les scanners, le scanner à rayons X, le photocopieur, le disque dur et encore bien d'autres sujets. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La physique par les objets quotidiens, donc écrit par vous, Cédric Rey, et Jean-Claude Poisat s'occupait de la relecture.
Oui, principalement de la relecture de l'ouvrage et puis m'a beaucoup assisté aussi pour donner des conseils sur comment présenter les choses, etc.
La physique par les objets quotidiens, paru aux éditions Belin en novembre 2007 et je le rappelle a reçu le prix 2009 Robert Val en catégorie grand public. Merci beaucoup.
Merci à
et
vous.
Et puis bonne chance pour votre ouvrage. J'imagine que vous avez déjà des résultats au niveau des ventes.
Oui, quelques-uns. Ça marche pas trop mal.
Eh bien, merci beaucoup et puis félicitations pour ce prix.
Merci beaucoup.